Rossa, Rossa, Rossam, Rossae, Rossae, Rossa. Ayant choisi la voie scientifique pour mes études, puis pour ma carrière, je pensais avoir tiré un trait définitif sur l'étude du latin. Mais grâce ou à cause de l'anniversaire de Calvin et à la série de prédications que nous avons eues sur les solis, j'ai pu réviser avec vous et dépoussiérer mes souvenirs latinistes. Aujourd'hui, en ce premier dimanche de l'année 2010, c'est l'occasion pour moi de vous souhaiter à tous une bonne année, riche avec notre Seigneur. C'est aussi l'occasion de prolonger un peu l'année Calvin, qui était 2009, et de parler avec vous du dernier des solis, du dernier de ses slogans de la Réforme. Avant d'aller plus loin, c'est le matin des interrogations. Vous souvenez-vous des différents solis, des différents sujets que nous avons abordés?
Une seule fois, sola fide, par la foi seule, nous n'avons rien d'autre à faire que croire pour être sauvés. Quoi d'autre? La grâce, sola gratia, par la grâce seule, c'est par la grâce seule de Dieu que nous sommes sauvés. Sola scriptura, par l'écriture seule, l'écriture à seule autorité pour déterminer ce que nous croyons. Solus Christus, Christ seul, Jésus-Christ est notre seul médiateur pour accéder à Dieu. Et aujourd'hui, soli Deo Gloria, à Dieu seul la gloire.
C'est cette dernière formule, à Dieu seul la gloire, qui vient conclure l'ensemble des solis. Je vous propose d'abord d'étudier cette formule, à Dieu seul la gloire, afin de mieux la comprendre. Tout d'abord, qu'est-ce que la gloire? Pour le savoir, j'ai commencé par regarder dans le dictionnaire. Il est intéressant de voir que celui-ci fait référence aux religieux et aux divins. La gloire est ainsi l'hommage rendu à une divinité. On tourne un peu en rond. Comment allons-nous donner gloire à Dieu en lui rendant hommage? Il va falloir continuer à creuser. Le dictionnaire nous propose un autre sens. Il nous dit que c'est le rayonnement, la splendeur de Dieu. La gloire est intrinsèque à Dieu, c'est une de ses caractéristiques, sa splendeur. Hors du cadre religieux, on dit que la gloire est un honneur acquis pour une action, ou encore une grande renommée répandue dans un très vaste public. On parle alors de faire quelque chose pour la gloire, c'est-à-dire pour le prestige uniquement. Je propose la définition suivante. La gloire est l'aura, la renommée, la reconnaissance attribuée à une personne pour ce qu'elle a fait ou pour ce qu'elle est. Si le terme mérite d'être défini, c'est qu'il me semble être peu utilisé dans le vocabulaire actuel. C'est un terme un peu désuet. On imagine bien un péplum, un film historique en costume, où une foule crierait « Gloire au roi, pour acclamer son souverain. Mais aujourd'hui, j'imagine mal une foule crier d'une seule voix un tel slogan. On parlera plutôt de gloire quand quelqu'un est désintéressé, en tout cas désintéressé matériellement, et qu'il fait alors quelque chose pour la gloire uniquement. Ou alors on parlera de la gloire d'un artiste quand celui-ci aura atteint une grande notoriété. On utilisera aussi le terme pour railler quelqu'un quand il aura été remarqué. Tu sais quoi ? J'ai eu un commentaire sur mon blog. Waouh ! C'est la gloire ! Mais si le terme est peu employé, la notion qu'il décrit est toujours présente aujourd'hui. Aujourd'hui encore, l'homme aime être reconnu pour ce qu'il a fait ou pour ce qu'il est. Et cette soif de reconnaissance est parfois une grande source de motivation. Voici pour la gloire. Mais qu'est-ce que la gloire de Dieu ? Car si le terme est finalement peu employé dans le vocabulaire courant, il est largement présent dans la Bible. Je ne vous l'apprends pas, la Bible est un ouvrage en deux parties, deux testaments, l'Ancien et le Nouveau, qui définissent deux alliances, anciennes et nouvelles, passées entre Dieu et les hommes. Et pour nous faire comprendre ces alliances voulues par Dieu entre lui et les hommes, Dieu s'y est largement décrit. C'est normal. Quand on s'engage, il faut apprendre à connaître celui avec qui on s'engage. Or, Dieu est glorieux par nature, par essence. L'Ancien Testament parle régulièrement de la gloire du Seigneur, comme la manifestation naturelle de sa présence ou de son existence. Le rayonnement, la splendeur dont nous parle le dictionnaire évoqué tout à l'heure. Ainsi, la gloire du Seigneur s'est par exemple manifestée aux Israélites dans le désert pendant l'Exode. La gloire du Seigneur est sans arrêt évoquée, révélée, manifestée. Elle n'est jamais complètement vue ou admirée par les hommes. Moïse, qui a pourtant été beaucoup au contact de Dieu, lui a fait cette demande. Permets-moi de contempler ta gloire. Et à cette demande, Dieu ne peut accéder. Personne ne peut voir sa face, sa gloire dans son intégralité. La gloire de Dieu a donc été entrevue par Moïse, par Salomon lors de la dédicace du temple, par Ésaïe au moment de sa vocation, par Ézéchiel dans sa vision, etc. Mais nul n'a pu la contempler complètement. Et la Bible nous explique que cette gloire a été perdue par les hommes. Tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu, écrit Paul. C'est le péché qui nous empêche de voir, de contempler Dieu complètement, de voir sa gloire, cette gloire qui, comme le dit Frank Horton, est le rayonnement qui se dégage de la présence de sa personne, l'éclat insoutenable de toutes ses perfections. Pourtant, cette gloire, nous pouvons facilement en voir des traces. Dieu est le Créateur et nous entrevoyons sa gloire à travers sa création. En effet, Dieu a tout créé, non seulement la terre, mais tout l'univers, de l'infiniment grand, de l'espace insondable, jusqu'à l'infiniment petit, de la vie cellulaire ou de la construction atomique. Sans cesse, la science progresse, nous explique de nouvelles choses sur notre monde, met en évidence de nouvelles merveilles que nous ne connaissions pas. Et chaque nouvelle découverte, chaque nouvelle compréhension est l'occasion d'un nouvel émerveillement devant la superbe mécanique de ce monde dans lequel nous vivons et de ce Dieu qui nous crée un tel environnement. Les auteurs bibliques déjà s'émerveillaient devant la création. Ainsi, le psaume 19, « Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux, l'étendue un tel environnement. » Les auteurs bibliques déjà s'émerveillaient devant la création. Ainsi, le psaume 19, « Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux, l'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Un jour en informe un autre, une nuit à l'autre nuit en transmet la connaissance. Leur voix parvient jusqu'aux confins de la terre et leurs accents dans tout l'univers. » Ce rayonnement à travers la création, tous les hommes peuvent le voir. Et d'ailleurs, plusieurs sont d'accord pour accepter l'idée d'un Dieu créateur. Voltaire, par exemple, peut tendre à l'égard de tout ce qui s'apparente au religieux, a écrit « L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe. » Pas d'horloger. La vie aux hommes qui la peuplent et le souffle de vie à ceux qui la parcourent. Oui, la création nous parle bien de la gloire de Dieu. Mais si cette révélation est accessible à tous, elle n'est pas complète. Comme nous l'avons dit, le péché nous prive de la glorieuse présence de Dieu et de sa pleine gloire. La révélation de la gloire de Dieu manifestée à tous, c'est en Jésus qu'on la trouve. Cette révélation fait partie du plan de Dieu. Et elle a été promise depuis longtemps au peuple de Dieu par les prophètes. Jean, l'évangéliste, témoigne de cette révélation qu'il a vue aux premières loges. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire. La gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Jésus porte en lui l'éclat de la gloire originelle, celle de la création. Cette gloire a été vue par les disciples, tout particulièrement dans l'épisode marquant de la Transfiguration. Et c'est à sa gloire qui lui est manifestée que Saul reconnaît Jésus qui l'interpelle sur le chemin de Damas. Et pourtant, Jésus n'a rien fait pour rechercher sa gloire. Tout son ministère sur terre a consisté à rechercher la gloire de celui qui l'a envoyé, Dieu le Père. Toute son action a été guidée par cet objectif. Et le sommet de son action, sa mort sur la croix, ô combien humiliante, est décrite comme son élévation, comme le moment où a éclaté sa gloire. Ainsi, Jésus a passé son temps à travailler pour la gloire du Père. Et c'est de là que vient sa gloire. Cette gloire, il veut la partager. Il souhaite en faire bénéficier son Église. Il veut qu'elle soit rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Il veut en faire bénéficier le croyant, en le transformant en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Vous rendez-vous compte de notre privilège? Alors que Moïse a désiré voir la gloire de Dieu, lui qui lui parlait face à face, il lui a demandé. Et nous, nous avons accès à travers Jésus-Christ à une révélation qu'il n'a pas connue. Malgré cette révélation plus complète de la gloire de Dieu, certains refusent toujours de la voir. La Bible dit d'eux que le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. Mais que l'on refuse d'y croire, ou que l'on se rende à l'évidence, Dieu est glorieux. La gloire fait partie de sa nature, elle est sa nature. Cette gloire, l'homme y a perdu accès à cause du péché qui l'en prive. Il peut seulement en voir l'image à travers la création et surtout à travers Jésus-Christ, image du Père, envoyé parmi les hommes pour le révéler. Vous aurez noté que la formule que nous étudions n'est pas « à Dieu la gloire », mais « à Dieu seul la gloire ». Et en effet, Dieu déclare « Moi, je suis l'Éternel, tel est mon nom. Je ne donnerai ma gloire à aucun autre. Je ne livrerai pas mon honneur aux idoles. » Dieu seul peut être destinataire de la gloire. Mais alors, n'y a-t-il pas un homme qui puisse réaliser de grandes choses et jouir de la renommée qu'elle lui procure? Et que dire de la gloire de l'Église ou du sel du croyant que nous venons d'évoquer? Que dire de la gloire de Jésus-Christ dont nous avons parlé? La gloire ne peut être prise par un homme qui se l'attribuerait. Elle ne peut être donnée, distribuée entre semblables. La gloire vient de Dieu, elle est donnée par Dieu. Ainsi, Jésus n'a rien fait pour être glorifié. Il n'a jamais recherché sa propre gloire. Au contraire, il n'a eu cesse de rechercher la gloire de celui qui l'a envoyé. La gloire, il l'a obtenu parce que Dieu l'a élevé. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition de serviteur. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille, dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père ». Dans le cas de l'Église, du croyant, c'est Jésus qui transmet sa gloire. Jésus dit, quand il prie pour ses disciples et ceux qui vont venir, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Nous sommes appelés à suivre l'exemple du Christ, exemple d'obéissance, de recherche de la gloire de celui qui nous envoie. Fils, Jésus est le premier-né. Nous sommes ses petits frères, appelés à suivre son parcours de serviteur à travers la souffrance, jusqu'à la gloire finale où notre corps même sera transformé comme le sien. De la même façon qu'il a été glorifié, nous le sommes aussi à travers l'obéissance, même lorsqu'elle entraîne la souffrance. Reste la question, un homme ne peut-il jouir de la renommée que lui procurent les grandes choses qu'il a faites? La Bible nous dit que c'est Dieu qui accorde tout, y compris la gloire. Le roi David, qui pourtant a largement connu la grandeur, dit à la fin de sa vie, « À toi, Éternel, appartiennent la grandeur, la puissance et la magnificence, et la gloire et la majesté. Car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre est à toi, Éternel. C'est à toi qu'appartient le règne, tu es souverain au-dessus de tout être. Et c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Tu domines sur tout, et dans ta main réside la force et la puissance. Tu y tiens le pouvoir d'élever qui tu veux et de le rendre fort. Dieu est le créateur de toutes choses, y compris de l'homme. Qui peut donc s'attribuer une gloire pour quelque chose qui ne vient pas de lui? Qu'as-tu fait qui ne t'ait été donné? Pourquoi se vanter de nos capacités physiques ou intellectuelles, de ce que nous pouvons en obtenir, alors que c'est Dieu qui a fait ce que nous sommes? Pourquoi nous vanter d'une richesse quelconque, que ce soit nos possessions matérielles, l'éducation que nous avons reçue, jusqu'à l'endroit où nous sommes nés? Tout homme ferait mieux de le reconnaître pour ne pas subir le même sort que le grand roi de Babylone, Nabuchodonosor. Pour avoir cru qu'il pouvait s'attribuer la gloire de son règne, il a perdu sa santé mentale et sa dignité humaine, devenant semblable à une bête. Celui qui se glorifie lui-même commet la faute grave de voler Dieu et de voler à Dieu l'honneur qui lui est dû à lui seul. Oui, Dieu seul est digne de gloire. À Dieu seul la gloire. Face à la révélation de la gloire de Dieu, nous avons le choix. Reconnaître à Dieu la gloire qui lui est due, ou nous endurcir et refuser de lui rendre hommage. J'espère que vous reconnaissez sa gloire et que vous vous apprêtez, avec l'ensemble des croyants, à partager la gloire de Jésus lorsqu'il reviendra. Mais n'oublions pas que ce slogan vient de la réforme, cette période où des enseignants ont souhaité réformer l'Église, la ramener à la vérité parce qu'ils y avaient constaté une dérive. S'ils ont scandé à Dieu seul la gloire, c'est que l'Église s'était éloignée de ce principe. Et si elle l'a fait au temps des réformateurs, ne nous voilons pas la face. Il est encore possible qu'elle s'en éloigne, que nous nous en éloignions aujourd'hui. Installés dans nos habitudes, dans notre culte régulier, nous pouvons oublier, nous écarter de ce qui devrait être nos motivations. Prenons garde. Prenons garde que notre adoration ne se transforme en divertissement, où la beauté de la musique nous ferait oublier de comprendre les paroles que nous chantons. Prenons garde à ne pas vivre la foi comme une technique ou la fidélité comme une quête du succès. Prenons garde de ne pas transformer la prédication de l'Évangile, notre témoignage, en marketing, en cherchant à séduire plutôt que rendre un témoignage exact à Dieu. Rendons-lui sincèrement la gloire qui lui est due. Avant tout, sachons que toute gloire lui revient. Reconnaissons-le et gardons toujours cette certitude devant nous. Ensuite, disons-le, chantons-le, proclamons-le. Certes, ce n'est pas tout. L'homme est capable d'hypocrisie et d'affirmer des choses qu'il ne pense pas. Mais à l'inverse, si nous le croyons, comment pouvons-nous nous taire? Et surtout, vivons-le. Si nous croyons que tout nous vient de Dieu, alors nous ne pouvons nous croire supérieurs à nos frères. Si nous croyons que tout nous vient de Dieu, nous ne pouvons vivre en propriétaire de ce que nous avons. Mettons au contraire ce que nous avons reçu au service du Christ pour les autres, comme le Christ s'est mis au service de Dieu. Je ne crois pas qu'il y ait de recette simple, précise, pour rendre gloire à Dieu, pour lui rendre la gloire qui lui est due. C'est une vie à inventer, une vie à reconnaître sa gloire, ce qu'il nous donne, et à y accorder notre façon de vivre.